vous invite maintenant à un temps d'écoute de la parole de Dieu. Et pour cela, j'invite Viviane, qui va nous lire un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 20 et jusqu'au chapitre 5, verset 2. Laissons Dieu nous interpeller par ses paroles. Laissons ses paroles faire écho en nous. Oui Seigneur, parle-nous et que ces paroles puissent germer en nous.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable, que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur.
Alors tout à l'heure, je vous donnerai quelques explications sur le sens, la signification du baptême. Et maintenant, j'aimerais avec vous ici développer une dimension particulière de ce qu'est le baptême. Cette dimension de l'engagement à vivre une vie de disciple à la suite de Jésus, de Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le mot disciple n'apparaît pas ici dans ce texte. Et pourtant, il en est bien question. Alors, je suis désolé, en tant qu'ancien prof, je vais vous faire un peu travailler. Et ce sera un peu une préparation pour la rentrée dans une semaine. Désolé, je suis rabat-joie. Il y a un mot, ici dans ce texte, qui est de la même famille que le mot « disciple ». Alors, pas en français, mais en grec. Désolé. Et pour trouver ce mot, il faut partir du sens original du mot « disciple ». Qu'est-ce que ça veut dire, le mot « disciple » Qu'est-ce que vous diriez, le mot « disciple » Qu'est-ce que c'est un disciple ?
Quelqu'un qui suit.
Quelqu'un qui suit, c'est ce qu'on répond généralement. Eh bien, ce n'est pas le sens premier du mot. Et vous allez voir, c'est intéressant. Je ne vais pas être très long, rassurez-vous. En grec, le disciple se dit mathétès. Et il y a un petit indice dans ce mot est de la même famille que le mot mathématique. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont un problème avec les maths. Je crois qu'il y a une prof de maths dans la salle. Enfin, non, là. Ici, présent. Quel rapport y a-t-il entre être disciple et les maths? C'est une bonne question, Littéralement, en fait, le mot disciple veut dire celui qui apprend, l'élève, l'étudiant. Et donc, le mot, dans notre texte, le texte que nous venons de lire, qui est la même famille, c'est le mot apprendre. Je relis juste le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Alors bien sûr, il y a dans le mot disciple cette idée d'apprendre, et il y a cette idée qui est présente aussi dans la Bible, que le disciple c'est celui qui suit un maître, qui appartient à un maître, qui obéit à un maître. Un disciple ne peut pas être sans maître. On n'apprend pas seul dans son coin. Et Jésus avait, dès le début, des disciples. Mais un disciple, c'est d'abord un élève. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de dire cela. Un disciple, un un élève, un étudiant, un apprenti, on peut aussi dire. Alors, c'est vrai que cette idée me parle beaucoup en tant qu'ancien prof, ça me parle. Peut-être que ça vous parle aussi. Peut-être que ça vous parle pas beaucoup, parce que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont des mauvais souvenirs avec l'école. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais vous proposer de réfléchir à deux questions. Trois questions. Si Dieu nous appelle à être ses disciples, qu'est-ce qu'il nous demande d'apprendre? Et puis, comment apprendre? Que faut-il faire? La première chose, on voit ici quelque chose de formidable. Qu'est-ce qu'il nous demande d'apprendre? Il demande d'apprendre Christ. Je vais terminer ma science. En pédagogie, on parle de trois types de savoir. Les savoirs, hein, savoir des choses, des savoir-faire, être capable d'eux, des compétences, et puis des savoir-être, des attitudes. Mais dans le texte que nous venons de lire, il s'agit d'un tout autre savoir. Au verset 20, on peut lire, je relis, « Vous avez appris le Christ ». Et ce qui est merveilleux, c'est cette expression « apprendre Christ », »,« apprendre le Christ ». Dans certaines traductions de vos Bibles, on peut lire « apprendre à connaître le Christ » ou « apprendre au sujet de Christ ». Mais vraiment ici, littéralement, ce qu'il faut lire ici, c'est « apprendre Christ ». Voilà ce qu'un disciple doit apprendre. Il ne s'agit pas d'un savoir intellectuel ou d'une compétence, mais il s'agit ici d'une personne, Jésus-Christ. Jésus, c'est lui qui doit être l'objet de notre apprentissage. C'est comme si c'était une discipline. Vous savez, pour ceux qui ont encore des emplois du temps ou ceux qui les attendent enfin, avec impatience ou avec crainte, là, dans quelques semaines, c'est comme si dans votre emploi du temps, il y avait, à côté de maths et français, une discipline qui s'appelait Jésus-Christ. L'objet de notre apprentissage. Un disciple, ce n'est pas simplement quelqu'un qui suit Jésus-Christ, c'est important, mais c'est quelqu'un qui apprend Jésus. Nous sommes appelés à apprendre de ses paroles, de ses enseignements, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est pour nous. Sa vie est un exemple pour nous. Le disciple imite Jésus. Et nous avons dans la suite de ce texte le détail de tout ce que cela implique. Apprendre Christ implique logiquement avoir un style de vie différent. Paul, ici, nous appelle à nous défaire de l'homme ancien, qui correspond à notre conduite passée, et de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Et on va le voir après, le baptême par immersion, justement, est un symbole de cela, de cette réalité spirituelle. Mais j'y reviendrai. Et comme Paul le dit aussi ici, apprendre Christ, ça implique un changement d'intelligence. Pas n'importe quelle intelligence. Il s'agit de la connaissance de Dieu. Cela implique en toute logique d'écouter Jésus, de se laisser enseigner par lui. Et on peut être un peu troublé, mais Paul continue aussi par expliquer un peu plus dans le détail ce que signifie apprendre Christ. Il continue par une liste assez longue de choses à faire et à ne plus faire. Ne plus mentir, la colère ne doit plus durer, ne pas laisser de place au mal, plus de mauvaises paroles, ni des paroles inutiles, ne pas attrister l'Esprit Saint, ne pas garder le mal dans son cœur, plus de cris, plus d'insultes, plus de mal sous toutes ses formes, être les bons les uns les autres, avoir un cœur plein de tendresse. Et la liste continue encore dans la suite de ce chapitre 5. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mensonge, sur la colère, sur la rancune, sur la médisance, le manque de pardon. Et chacun de ces petits points pourrait faire l'objet de multiples prédications, multiples messages. Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais face à cette liste, on pourrait se sentir un peu découragé ou impuissant. Encore de nouvelles règles, encore de nouvelles lois. Comment arriver à respecter toutes ces règles? C'est ça être disciple? C'est ça apprendre Jésus? Oui, c'est ça. Mais plutôt que de voir ici une liste de règles bêtes et méchantes, je pense qu'il faut voir plutôt la nouvelle attitude que doit apprendre le disciple de Jésus. Voici en quelques mots comment est Jésus. Voici en quelques mots ce à quoi nous devons ressembler. Et pour se rassurer peut-être, il est bon de rappeler qu'apprendre, ça prend du temps. C'est un processus. On n'apprend pas quelque chose du jour au lendemain. Ça implique que rien n'est jamais acquis d'avance. Et que le disciple est appelé ainsi à se remettre aussi en question. Il n'y a donc pas d'âge pour être disciple. On peut apprendre à tout âge. Et un disciple est toujours en train d'apprendre. Et toujours en train d'apprendre à être plus semblable à Jésus. Mais alors comment apprendre? C'est ça ma deuxième question. Je pourrais là aussi vous donner des indications et des conseils pour bien apprendre, tirer des sciences, de l'éducation et la pédagogie moderne. Et tous ces mécanismes pourraient nous aider pour les appliquer à une formation de disciple, pour être un meilleur disciple. Ça pourrait nous aider à notre relation avec Dieu, à notre vie d'église. Mais les chrétiens, les disciples du Christ, ont des outils en plus. Des outils qui nous ont été donnés par Dieu pour apprendre de lui. Je vous en donne deux. Je lis deux courts textes. Jean 8, versets 31 à 32. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le deuxième texte, dans Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La parole de Dieu, la Bible, nous a été donnée comme moyen pour apprendre Christ, pour être son disciple. Et nous avons la grâce, ce cadeau d'avoir reçu le Saint-Esprit, qui est là pour nous aider à comprendre ces paroles, à les mettre en pratique, et pour que ces paroles puissent nous éclairer, nous guider, pour apprendre encore et encore mieux de lui, pour produire du fruit à travers ces paroles. Pour continuer toujours à apprendre, la question de base qu'un disciple doit se poser est la suivante. Suis-je encore maintenant, aujourd'hui, en apprentissage avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que j'ai appris le mois dernier sur Dieu, sur Jésus, sur l'Esprit-Saint, sur le Père, sur sa parole? Qu'est-ce que j'ai appris de mes frères, de mes sœurs? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai le désir d'apprendre encore? Quels sont les derniers changements dans ma vie? Est-ce que j'ai appris quelque chose à travers eux, à travers ces changements? Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Il y aura encore beaucoup à dire sur ce qu'est un disciple et comment apprendre. Mais il y a un point qui me paraît essentiel pour comprendre ce qu'est un disciple. Voilà les dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples avant de remonter au ciel. En Matthieu 28. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La meilleure manière d'être un disciple, c'est donc de permettre à son tour à d'autres d'être eux aussi des disciples. Ou dit autrement, la meilleure manière d'apprendre du Seigneur, c'est de parler de lui autour de nous. C'est d'enseigner sa parole. N'importe quel apprenti, dans n'importe quel domaine, est appelé un jour à maîtriser ce qu'il a appris de son maître d'apprentissage pour qu'un jour, à son tour, il puisse transmettre à d'autres son savoir. Et tout prof, tout enseignant, quel qu'il soit, pourra le dire. On comprend mieux quelque chose soi-même le jour où on l'a enseigné à d'autres. Je me souviens quand j'étais enseignant à des élèves de CM1, CM2, avoir redécouvert, peut-être enfin compris exactement et correctement, des règles d'orthographe. Tout simplement parce que je devais les réapprendre pour les enseigner correctement. Et je me les suis réappropriés. Et j'ai l'impression que de la même manière, lorsqu'on parle de notre foi autour de nous, notre propre foi s'affermit. Lorsque nous témoignons de la parole de Dieu autour de nous, notre connaissance de sa parole grandit aussi. Lorsque Jésus nous appelle à faire ses disciples, il nous pousse ainsi à continuer à être ses propres disciples, en apprenant davantage aussi de lui. Et dans cette mission qu'il a laissée aux disciples, Jésus a expliqué concrètement ce que c'est faire des disciples. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Baptiser. On va le faire. Et puis enseigner. Jésus nous appelle à enseigner. En conclusion, j'aimerais vous laisser ces paroles de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Être disciple de Jésus, être son apprenti dans son atelier, c'est aussi prendre conscience que nous sommes appelés à aimer les autres, à nous aimer les uns les autres disciples, les autres frères et sœurs. Nous ne pouvons apprendre Christ que si nous pratiquons l'amour, parce qu'il nous a aimés. Jésus nous appelle à être ses disciples et à faire des disciples. Nous appelle à apprendre de lui et à enseigner ce que nous avons appris de lui, par amour. Et je vais prier. Seigneur, nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est un jour de joie aujourd'hui, c'est un jour que tu as fait. C'est un jour de joie, nous sommes réunis autour de Salomé, nous sommes réunis autour d'Élisabeth, mais nous sommes aussi réunis autour de toi. Merci parce qu'il est bon de te suivre. Merci parce qu'il est bon d'apprendre de toi. Merci pour tout ce que tu veux nous transmettre, nous donner, nous laisser, tous tes cadeaux, toutes ces paroles, que ces paroles puissent germer en nous et porter du fruit. Amen. Alors je continue. En donnant quelques indications sur le sens du baptême que nous allons maintenant pratiquer. C'est pour obéir au Seigneur que l'église Ménonite de Darnay, la famille, les amis de Salomé, ici rassemblés, c'est pour obéir au Seigneur que nous baptisons aujourd'hui Salomé, qui va témoigner de sa foi maintenant. J'ai lu avant ces paroles, cette parole que Jésus laissa à ses disciples après sa résurrection. Je la relis. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Salomé, elle est où? Je la vois pas. Ah! Reste là pour l'instant, tu peux rester là. Salomé, en recevant le baptême aujourd'hui, tu réponds à cet appel de la parole de Dieu. À cette mission de Jésus qu'il a laissée aux premiers disciples et qu'il laisse encore aujourd'hui à ses disciples. Et voici encore ce que l'apôtre Paul écrivait aux Romains au sujet du baptême. Je lis Romains 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Salomé, ces paroles que je viens de lire s'adressent à toi, qui va confesser bientôt ta foi en Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Mais que signifie donc le baptême? Dans nos églises, le baptême est donné à ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, comme au temps des apôtres, à la question « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» la réponse est « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Nous baptisons donc ceux qui peuvent sincèrement et publiquement dire « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et le premier sens du baptême que je retiens, C'est cette idée que le baptême est donc la réponse humaine à la grâce de Dieu, au salut donné gratuitement à tous ceux qui l'ont reçu par la foi. Le baptême, c'est d'abord une réponse à Dieu. Le baptême devient ainsi l'expression visible, on va voir quelque chose, d'une réalité invisible, mais réelle, qui s'est passée dans la vie qui a eu lieu dans la vie de Salomé. Par le baptême, une personne atteste qu'elle s'est repentie, qu'elle a reçu le pardon, qu'elle a renoncé au mal, qu'elle est morte, on dit même au péché. Le baptême est un signe de la purification des péchés. Le baptême est aussi un signe de cette nouvelle alliance, de ce nouvel homme, de cette nouvelle femme. Celui qui passe par le baptême atteste qu'il vit une vie nouvelle, qu'il accepte son union et son identification à Jésus, qu'il accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Le baptême d'eau exprime aussi ce cadeau, ce don du Saint-Esprit et l'œuvre continuelle de l'Esprit dans la vie du croyant. Salomé va être baptisé par immersion. Et cette forme du baptême, l'immersion, symbolise bien que Salomé est morte au péché en étant plongée entièrement dans l'eau et qu'elle est désormais vivante pour Dieu en Jésus-Christ en ressortant de l'eau. Deuxième sens du baptême. Le baptême n'est pas seulement le signe du salut éternel, mais il est aussi l'engagement à suivre Jésus tous les jours de la vie. Un engagement. Par le baptême, Salomé, tu t'engages à vivre une vie de disciple de Jésus avec l'aide et avec la puissance du Saint-Esprit. Par le baptême d'eau, tu vas t'engager aussi à aimer et à servir le Christ. Et en tant que membre de son corps, tu t'engages à remplir les services qui correspondent aux dons que tu as reçu et que tu recevras encore. Le baptême est en lui-même un acte d'obéissance, puisque c'est Jésus qui l'a institué, qui a institué le baptême. Et il introduit une vie de disciple, une vie d'obéissance, à la suite du Maître, Jésus. Troisième sens, après la réponse, après l'engagement. Le baptême a clairement une dimension personnelle, mais tout en ayant aussi une dimension communautaire. Ce baptême ne concerne pas que Salomé. Il concerne aussi toute l'Église. Il vous concerne. Le baptême, c'est donc un engagement d'alliance avec Dieu pris par Salomé devant l'Église. Par ton baptême, Salomé, tu vas manifester publiquement, pas tout seul dans ton coin, mais devant tous, ton appartenance à Christ. Et lorsque le croyant passe par les eaux du baptême, il s'engage au sein de l'Église à donner et à recevoir d'elle. Salomé, tu t'engages donc à suivre le Christ en qualité de membre de son corps, qu'est l'Église. Le baptême signifie donc que Salomé est désormais admise dans la communauté des croyants, dans l'Église. Je te laisse maintenant la parole, Salomé, pour nous partager le témoignage de ta foi.